Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentar. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Marion Papillon. Elle est la directrice de la galerie du même nom, la galerie Papillon. C'est là qu'on se trouve en ce moment, au 13 rue Chapon, dans le 8e arrondissement. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer et vous présenter, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir galeriste ?
Bien sûr, donc je suis Marion Papillon, je suis avant tout galeriste depuis maintenant près de 14 ans. Je suis associée à Claudine Papillon, donc ma mère et mon associée qui a fondé donc sa galerie. D'abord la galerie Claudine Papillon qui est devenue Galerie Papillon en 2016. Et elle a fondé sa galerie en 89, donc la galerie a 32 ans aujourd'hui, ce qui est déjà un bel âge pour une galerie. Et voilà, notre association a commencé en 2007. Je suis fille de galeriste, donc voilà, c'est un métier que je connais depuis le début, même si ce n'était pas tout à fait prévu que j'en prenne la suite. Mais voilà, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu ces 14 ans passer. Voilà, pour moi, la possibilité d'accompagner les artistes, c'est un métier où on fait des choses différentes presque tous les jours. On fait entre 5 et 6 expos par an et pourtant on n'a jamais l'impression de refaire. Voilà, on ne sait jamais les mêmes expositions. On défend plus de 20 artistes, donc ce qui est déjà assez conséquent. Donc voilà, c'est beaucoup de projets très différents avec les uns et avec les autres. Et ce qui est fantastique et parfois un peu difficile à gérer, mais c'est qu'avec les artistes, il n'y a pas de règles. On ne fait jamais les choses de la même manière. Et on doit à chaque fois s'adapter, inventer, innover. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'ennuie absolument jamais dans mon métier.
Qu'est-ce que vous voulez dire par « ce n'était pas le plan de devenir galeriste » ?
Alors, j'ai une formation de lettres modernes, puis un DESS à l'époque, donc qui est un master en stratégie du développement culturel, ce qui m'amuse toujours, parce que c'est un terme de guerre, un terme économique et un terme de culture. voilà, j'ai travaillé au Centre Pompidou, à l'AFA, qui est l'ancêtre de l'Institut français. J'ai fait plusieurs missions à l'étranger, et puis enfin, j'ai travaillé pour des architectes, dont j'ai assuré la communication, donc... voilà, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un immeuble, une œuvre, et donc du coup c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai aussi beaucoup appris en travaillant auprès d'architectes, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Mais c'était pas prévu en effet que je reprenne la galerie, ça a été à un moment donné une discussion, une occasion où j'ai rejoint Claudine, ne sachant pas vraiment que j'allais y rester. Et puis finalement, assez vite... je me suis bien sentie dans ce rôle de galeriste. Je suis pourtant repartie, rappelée sur d'autres missions. Et puis finalement, assez vite, je me suis dit que non, j'avais envie de finalement continuer cette aventure. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai proposé à Claudine qu'on s'associe. Et voilà, ça fait donc 14 ans que l'aventure est lancée et qu'elle ne s'arrête pas.
On est en ce moment dans la galerie du 13 rue Chapon. Depuis combien de temps êtes-vous installée ici ?
Depuis 2004.
Vous venez d'inaugurer une nouvelle exposition, c'est le premier solo show du duo Void, et j'ai devant les yeux une drôle de machine qui ressemble à un énorme tube argenté. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Tout à fait, c'est un duo italo-belge, c'est un premier solo show à la galerie, c'est toujours assez excitant les premiers solo shows d'ailleurs, puisque voilà, c'est une rencontre avec les artistes, c'est la première fois qu'on les montre, c'est la première fois qu'ils doivent s'adapter à notre espace aussi. Comme je disais, on travaille avec une vingtaine d'artistes. J'aime bien rappeler que les galeries ont un engagement à très long terme auprès des artistes. Quand on est à la troisième ou quatrième expo d'un artiste, ça veut dire en général qu'on travaille déjà avec eux depuis plus de 10, 12, voire 15 ans. Mais une première expo, voilà, c'est aussi un moment important. Alors c'est vrai que par exemple avec Void, on a décidé de travailler ensemble maintenant il y a presque 2 ans. On leur a proposé d'abord de faire un solo show dans une foire à Chicago. Donc c'était en septembre 2019 et puis on avait programmé l'exposition pour mai 2020. Donc la pandémie a un petit peu chamboulé ce programme. Mais c'est finalement mi-juin que nous avons ouvert cette exposition, qui va se prolonger jusqu'à fin septembre. Et donc on est ravis de montrer une exposition à la fois très visuelle et très conceptuelle, puisque ce sont donc un duo qui travaille autour du son. Le son, ça se regarde, ça se montre, ça se transmet, ça s'enregistre, ça se traduit. Et voilà, donc c'est un petit peu ce jeu hein, un peu autour du son qui est à voir à la galerie. Et voilà, et c'est avec vraiment plaisir qu'on montre, qu'on accompagne ce premier solo.
Marion, vous êtes aussi présidente du comité professionnel des galeries d'art et vous êtes membre du comité stratégique et artistique de la charte Un immeuble, une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle au sein de ce comité ?
Alors en effet, quand la charte Un immeuble, une œuvre a été lancée, c'était en décembre 2015. À ce moment-là, j'étais vice-présidente du comité professionnel des galeries d'art et Georges-Philippe Valois, qui en était le président, m'a proposé donc d'intégrer ce comité stratégique. C'était très important pour le comité professionnel des galeries d'art parce que pour la première fois, dans cette charte, était bien identifié le rôle de la galerie par rapport à l'artiste. Il y a d'ailleurs un article spécifique sur cette relation et comment associer la galerie qui représente un artiste à ce projet. Et donc c'était important pour nous de pouvoir accompagner ce projet qui nous paraissait très ambitieux, très important pour le soutien aux artistes et aux galeries. Et donc en tant que comité des galeries d'art, on représente donc aujourd'hui, alors à l'époque un peu moins, mais aujourd'hui on est 311 galeries qu'on représente au niveau national. C'est plus de 6000 artistes qui sont représentés par nos galeries. Donc c'était aussi un engagement assez fort pour nous d'accompagner ce projet. Au départ, il y avait, si je ne me trompe pas, je crois que c'était 12 promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 30, 40, je ne sais plus maintenant. À chaque fois que je vois le chiffre, je me dis encore tout ça de plus. Donc je trouve que c'était une très belle aventure. C'est un très bel engagement aussi des promoteurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, Jean de Loisy, qui avait accompagné le développement de ce projet, avait souligné à quel point ça pouvait être vraiment une sorte de coup d'accélérateur en termes de visibilité pour les artistes, en termes de commandes, de collaboration, d'acquisition, et puis bien sûr de rencontres entre l'art et certainement un nouveau public. Parce qu'on parle d'usagers, que ce soit dans des bureaux ou dans du résidentiel. Donc je continue de penser, même si évidemment le temps de l'immobilier est toujours un temps un peu plus long hein, il y a certains projets qui sont peut-être à court terme. L'immobilier c'est un peu long, il faut le concevoir, il faut le construire, il faut ensuite le vendre, etc. Donc on sent bien qu'il y a un temps un peu plus long. Mais je pense que maintenant, ça fait quelques années que le projet est en route. Il y a beaucoup de réalisations qui se sont faites. Beaucoup de typologies aussi, ça je trouve ça assez intéressant. C'est pas forcément évident hein, pour des artistes de répondre à ce type de projet. C'est des contraintes, c'est un lieu. Est-ce que c'est in situ, pas in situ? À quel moment il peut intervenir dans le projet? Est-ce que c'est très en amont? Est-ce que c'est un peu plus tard? Voilà, il y a plein de beaucoup de paramètres. Et ça, je trouve ça du coup intéressant pour les artistes, comme pour nous, pour les galeristes, d'accompagner ce type de projet, d'accompagner nos artistes aussi dans les réflexions et dans le projet lui-même. Non, peut-être pour ce qui est du comité stratégique, alors c'est vrai qu'il n'avait pas de rôle complètement défini hein, au départ, il était consultatif aussi pour voir comment accompagner un petit peu ce projet. Donc avec les promoteurs, on avait travaillé sur le premier jury, et puis la formule s'est un petit peu adaptée sur le deuxième. Le comité stratégique a aussi servi un petit peu à, je crois, faire évoluer le projet, le rôle de la fédération, des promoteurs, de voir, il y avait ce projet de plateforme qui est en train encore de changer, le rôle aujourd'hui du club, Un immeuble, une œuvre. Donc c'est un projet vivant, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que les choses continuent d'évoluer et qu'on va pouvoir voilà, faire naître peut-être d'autres projets autrement, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, donc le comité stratégique n'a pas de rôle décisionnaire ou quoi que ce soit. Bien au contraire, à chaque fois qu'il est sollicité, c'est plutôt pour accompagner l'évolution, je crois, de la charte. Et ça, je pense que c'est ça le plus important.
Les promoteurs ne consultent pas le comité stratégique avant de commander une œuvre, par exemple.
Absolument pas. Alors c'est vrai que je crois aussi savoir qu'aujourd'hui, avec le club, les promoteurs ont un interlocuteur qui leur permet un petit peu parfois de les aiguiller, de peut-être les aider à les accompagner à établir un cahier des charges, notamment. En tout cas, on a fourni en tant que comité des galeries d'art quelques clés là-dessus pour les accompagner. En tout cas, ce qu'on en comprend vu de l'extérieur, et là je parle en tant que galeriste comme en tant que présidente du comité professionnel des galeries d'art, c'est qu'on a en face de nous des promoteurs qui sont organisés très différemment les uns des autres. Certains ont en effet un pôle dédié, peut-être via la communication ou le mécénat, voilà, qui ont l'habitude en tout cas d'utiliser l'art d'une certaine manière. Et puis après, on a aussi des promoteurs qui travaillent de manière très régionalisée, et qui donc, c'est finalement à chaque fois une nouvelle personne qui va s'occuper de ce projet spécifique d'acquisition ou de commande d'une œuvre. Et donc évidemment, ils n'ont pas forcément les habitudes, les clés, les codes, etc. Et donc à chaque fois, il faut recommencer. Donc voilà, donc si, j'espère que le. Je, enfin, je pense vraiment que le club sert aussi un petit peu à accompagner les promoteurs de cette manière. Et voilà, et le comité stratégique est aussi là pour répondre aux questions que les promoteurs peuvent se poser pour accompagner et développer encore la charte.
Comment se fait le choix d'un artiste par un promoteur?
Alors, les quelques cas, c'est en effet plutôt l'artiste qui est identifié. Parce que les œuvres, les réalisations précédentes, voilà, ont rencontré la sensibilité du promoteur. Et donc, le plus souvent, on a des promoteurs qui vont voilà, choisir deux ou trois artistes, trois ou quatre artistes, qui vont leur présenter le lieu, les contraintes techniques, pour voilà, leur permettre de faire des propositions plus précises auprès des artistes. Donc là encore une fois, il faut préciser s'il s'agit vraiment d'une nouvelle réalisation faite spécifiquement pour le lieu. Est-ce que finalement l'artiste peut proposer une œuvre déjà existante, qui est un petit peu différente, mais qui semble cohérente avec le lieu? Évidemment, c'est lié à des questions de budget, c'est lié à des contraintes techniques intérieures, extérieures. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et évidemment, dans ces cas-là, on travaille avec l'artiste pour la préparer, enfin, répondre au mieux à la demande, voilà, aider l'artiste à se poser les bonnes questions, à évidemment préparer un dossier, préparer l'oral, parce qu'en général, on présente l'œuvre à l'oral et souvent on le fait ensemble. Nous, en tant que galeriste, on est là aussi pour présenter un peu le parcours et l'artiste en lui-même, parce que c'est pas forcément toujours évident pour l'artiste de se présenter lui-même ou elle-même. Donc voilà, donc on a souvent nous plutôt présenté l'artiste, on l'a accompagné pour préparer on va dire le projet. Au moment de l'oral, on va le présenter et puis ensuite l'artiste va présenter son œuvre. Voilà, c'est globalement près comme ça que ça se passe. Après, il y a eu différents cas. Parfois, on nous a vraiment demandé. On est venu nous chercher sur une pièce spécifique pour savoir si elle pouvait être adaptée pour ce lieu. Voilà, dans ces cas-là, bah, évidemment, on voit avec l'artiste, on étudie évidemment la faisabilité du projet ou pas.
Est-ce que vous avez déjà eu le cas d'une totale carte blanche?
Non, je crois pas que ce soit le principe. Je crois pas que ce soit le principe même. Non, prochainement, je devrais peut-être quelqu'un m'a contacté pour qu'on nous, enfin, dès qu'on aura le cahier des charges, que nous on choisisse des artistes au sein de la propre galerie. Voilà, donc c'est pas le promoteur qui va choisir. On est choisi là plutôt comme représentant des artistes. Voilà, on va voir si ça se fait ou pas. Non, je crois que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a plein de manières de l'aborder. Alors après, je pense concrètement que les promoteurs ont besoin de quelques grands cas de figure pour savoir voilà, comment avancer, pour parce qu'ils ne peuvent pas réinventer à chaque fois les choses. Donc, pour moi, il y a le cas de justement de la commande très spécifique. Après, il y a le cas de la demande in situ et donc vraiment en collaboration avec, dans ces cas-là, peut-être l'architecte, les usagers, etc., en fonction du lieu. Voilà, donc déjà on a au moins deux cas de figure. Et puis après, il y a aussi des petits budgets et je trouve ça très intéressant et qu'on n'ait pas de problème avec l'idée de poser une œuvre qui va s'intégrer dans un bâtiment ou même à l'intérieur, qui va apprendre encore une fois, à dialoguer avec ses usagers, même si elle n'a pas été réalisée spécifiquement pour le lieu. Je trouve ça, enfin, de tout temps, il y a eu des commandes, il y a eu des œuvres d'art qui sont données à voir à des usagers qui n'ont pas forcément prévu qu'elles soient là, et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Donc, ça fait partie du programme, et je trouve ça, c'est qu'il ne faut pas l'oublier.
Et alors, à la galerie, vous avez des visiteurs qui poussent la porte, qui entrent dans la galerie. Là, dans le cadre de la charte d'un immeuble, une œuvre, les usagers ne sont pas forcément des connaisseurs du marché de l'art et ils vont se retrouver tous les jours face à une œuvre d'art. Qu'est-ce que ça vous donne à penser? Je trouve que c'est une vraie chance d'apporter de l'art.
C'est toujours une chance et c'est toujours. En tout cas, c'est jamais anodin. Et que ça provoque quelque chose de positif, que ça déclenche un engouement ou au contraire des critiques, même les critiques négatives, elles sont intéressantes parce qu'en tout cas, ça crée une réaction et ça, je pense que c'est le plus important, c'est ce que quand même l'art. A pour objet notamment, hein, c'est de provoquer des réactions. Et donc ça, évidemment, pour moi, c'est le plus important. Il ne faut pas oublier que de tout temps, justement, on a commandité des œuvres pour finalement montrer à des gens qui n'y avaient pas forcément accès. Et ça, je trouve que c'est ça aussi qui permet d'élargir un peu les publics, c'est ce qui permet aux gens d'ouvrir un peu les esprits. Et puis, on a vu ces dernières années à quel point l'art est rentré dans l'entreprise, notamment, parce que tout d'un coup, on avait un PDG ou même un directeur de la communication qui, tout d'un coup, s'est dit que c'était intéressant d'inviter un artiste en résidence, de le faire intervenir, d'acheter une œuvre, etc. Et on voit à quel point. Les entreprises se saisissent aussi de ces opportunités et les salariés pour se dire, voilà, j'aime pas, mais peut-être, ah bah tiens, ça me donne envie d'en savoir plus, et peut-être que ça va déclencher ensuite des gens qui vont aller voir l'exposition de l'artiste, qui vont peut-être se dire, bah tiens, j'aimerais bien voir d'autres choses de cette période, etc. Et donc petit à petit, alors, notamment parce qu'il s'agit d'artistes vivants, c'est se confronter à l'art contemporain, donc c'est se confronter à l'art de son temps, à l'art qui se crée aujourd'hui, et donc c'est pas anodin. Alors évidemment, ça met parfois du temps, parfois c'est un peu un one shot, et puis après les gens disent finalement ça n'intéresse pas d'aller plus loin, mais globalement, je crois que ça déclenche des choses, et ça c'est positif.
C'est une chance pour les artistes de se voir exposer dans des lieux où on ne les attend pas, ou en tout cas des lieux qui ne sont pas les lieux habituels où on les voit. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté pour eux?
Oui, et puis c'est une chance enfin, et c'est la difficulté pour les artistes de se confronter à l'espace public, c'est-à-dire qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Un espace public, c'est pas forcément. Je parle d'un environnement à plus grande échelle, il faut se confronter à l'échelle de l'espace, il faut se confronter. À ce qui l'entoure, dire qu'on est, c'est très différent d'installer une œuvre dans un white cube, dans un musée, dans une salle d'exposition, que dans un immeuble qui lui aussi a ses propres codes, sa propre architecture, etc. Donc ça c'est toujours intéressant pour les artistes de jouer aussi et de se confronter à ça. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il faut être vigilant, peut-être, c'est de pas forcément demander à des trop jeunes artistes, par exemple, qui ne se seraient pas encore confrontés à cette dimension-là. Parfois, c'est déroutant et ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc, je crois que c'est aussi important de prendre la mesure de ce qu'on demande aux artistes dans ce type de projet. Voilà, mais ça donne souvent de très bons résultats.
Depuis 2019, le prix Un immeuble, une œuvre distingue et récompense les réalisations les plus exemplaires. Qui est le jury de ce prix et en fonction de quels critères sont choisis les lauréats?
Alors pour l'instant, il est encore assez évolutif, ce prix. Justement, la première fois, les promoteurs étaient présents, les promoteurs fondateurs, ce qui voilà, posait quelques angoisses aux uns et aux autres. Donc ensuite, voilà, les règles ont un petit peu changé. On apprend en faisant, je crois, mais aussi parce que les promoteurs aussi apprennent, évoluent, font évoluer leurs projets. Donc on a évidemment différents projets en fonction, je disais, intérieur-extérieur. Est-ce que les usagers, est-ce que les riverains ont été associés? Est-ce qu'il s'agit d'une commande, d'une acquisition? Et puis, on commençait aussi à arriver la question des immeubles en réhabilitation, par exemple, où forcément, ce n'est pas tout à fait les mêmes interventions. On a commencé à voir aussi les projets, justement, préalables au chantier, avec les bâches. Comment est-ce qu'on pouvait faire intervenir un artiste pendant le chantier sur des bâches. Donc, du coup, c'était intéressant de voir ces différentes typologies. On voit aussi la question beaucoup de la fresque, de la sculpture, de la peinture. Donc il n'y a pas vraiment de règles encore, et je suis même pas sûre qu'il faut qu'il y en ait, au contraire. Ce qui était important pour ce prix, c'était aussi de pouvoir recenser le plus possible tous les projets, ce qui n'est pas si évident, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et tous ne donnent pas lieu à de grandes communications, etc. Donc voilà, parce que les promoteurs jouent le jeu, et donc à partir du moment où ils le font pour chaque immeuble, et on le comprend bien, ils ne peuvent pas forcément accompagner de la même manière tous les projets. Donc on a des projets un petit peu plus confidentiels que d'autres.
On a vu aussi le cas de projets éphémères, avec des bâches ou des palissades pendant la construction du chantier. Voilà. Et ces œuvres, qu'est-ce qu'elles deviennent après ?
Elles sont éphémères, elles sont répertoriées, elles existent peut-être sous d'autres formes. Parfois, l'artiste va peut-être réinventer à un moment donné de pouvoir les montrer autrement. Mais c'est l'avantage aussi de travailler d'artistes vivants, hein, c'est qu'on peut ils peuvent se réadapter. Donc je pense que le prix va encore évoluer. Et c'est tant mieux. Il y a un premier livre qui est sorti, qui recense aussi tous les projets. Le prix est une manière d'accompagner encore la charte. Je pense qu'elle a encore besoin de cet accompagnement un petit peu, on va dire, institutionnel quelque part. Mais je pense que le projet grandit tranquillement.
Non, c'est sûr, quand on voit qu'en 2015, 12 membres fondateurs étaient signataires de la charte. Aujourd'hui, c'est plus de 40.
C'est ça.
Je crois qu'en dernièrement, on était à plus de 300 œuvres.
Mm-hmm. Oui, je pense que, encore une fois, c'est pas que ça a mis du temps à se mettre en place, mais il fallait que les promoteurs, comme je disais tout à l'heure, se réorganisent chacun à sa manière. Il fallait le temps de la construction, il fallait le temps du recensement, il y avait beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a encore... des volontés aussi d'élargir à certaines typologies de projets un peu ambitieux, etc. Donc je pense qu'il y a encore une grande marge d'évolution de la charte. Et donc on espère qu'elle concernera de plus en plus d'artistes et leurs galeristes. Je tiens évidemment à la collaboration artiste-galerie, parce que je crois aussi que c'est une manière pour les promoteurs aussi d'être accompagnés par les galeries qui représentent ces artistes. Encore une fois, les galeries connaissent bien leurs artistes, elles savent aussi les encadrer, elles savent les accompagner sur ce type de projet, et elles savent aussi en accompagner la communication a en amont et en aval, hein, et ça c'est important. Et donc je pense vraiment que les promoteurs ont tout intérêt à s'adresser aux galeries et aussi pour voilà, garder une diversité de projets. C'est vrai que j'ai eu quelques promoteurs qui se rendent compte que c'est bien voilà, pour chaque nouveau projet d'essayer de ne pas voilà, de changer les interlocuteurs. Voilà, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de galeries. Donc je pense qu'il y a de quoi faire pour avoir des projets très divers.
Pourquoi est-il si important, selon vous, d'incorporer l'art dans nos espaces de vie, dans la vie quotidienne ? Selon vous, qu'est-ce que ça nous apporte ?
De l'ouverture d'esprit, évidemment. Encore une fois, se confronter à l'art de notre temps, c'est l'art qui est créé aujourd'hui, avant même qu'il devienne patrimoine. Mais j'aime à penser que, par exemple, nous, quand on montre des œuvres dans des galeries d'art, on espère que nos visiteurs, un jour, les reverront dans les musées, notamment. Mais peut-être que ces œuvres avant auront été chez des collectionneurs, elles auront aussi eu une vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans notre rôle en tant que professionnel voilà, de ne pas finalement se limiter à l'espace de la galerie et de notre espace de travail. Je pense que voilà, dans notre rôle, c'est aussi d'accompagner nos artistes pour qu'ils soient aussi montrés ailleurs, pour qu'ils soient montrés à un public qui ne vient pas forcément dans nos espaces. Et donc, plus on arrivera à mener ce type de projet, plus, voilà, plus on élargira les publics. Et je crois que ça, c'est évidemment le plus important. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas forcément accès tous les jours à la possibilité d'aller dans les musées, dans les galeries. Et pourtant, de se confronter aux questions que les artistes nous posent et nous confronter à une esthétique, nous confronter à un concept, nous confronter à quelque chose de beau ou quelque chose d'intrigant ou quelque chose de désagréable. Ça, de toute façon, ça nous fait réfléchir, ça pose question.
En 2015, 12 membres étaient fondateurs. Aujourd'hui, les promoteurs sont plus de 40. Donc, on a toujours plus de projets, toujours plus d'œuvres d'art, toujours plus d'artistes. Est-ce que vous pensez que la charte pourrait évoluer dans les années à venir ?
Oui, je crois qu'il y a des projets d'évolution sur des regroupements, je pense, sur des projets où il y a peut-être plusieurs promoteurs, ou avec les villes. Je pense aussi à des immeubles qui sont pas forcément des nouvelles créations. Il y a aussi la question de la réhabilitation. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense que les architectes aussi se posent de plus en plus de questions, puisqu'avant il y avait le 1%, qui est d'ailleurs malheureusement un peu trop souvent oublié. Moi je rappelle régulièrement aux interlocuteurs publics qu'il faut faire respecter en fait ce 1%, parce que là aussi c'est la possibilité pour des artistes de travailler et encore une fois de montrer de l'art dans un espace où il n'y était pas. Oui, je pense que la charte petit à petit pourra évoluer, et c'est grâce à ces là pour le coup usagers que sont les promoteurs, c'est grâce à leur expertise, à leur expérience qu'on pourra faire évoluer la charte et mieux l'accompagner.
Est-ce qu'un projet en particulier vous a beaucoup marqué ?
Alors, il y en a plusieurs, mais alors c'est vrai que j'avais vu le projet Petrovitch, une fresque de Petrovitch que j'avais bien aimée. Le projet des bâches, je ne sais pas du nom de l'artiste, mais comme tout le monde avait cité le nom tout à l'heure, m'avait aussi pas mal frappée.
Les fameuses bâches de Sacha Goldberger.
Voilà, Sacha Goldberger, ça j'avais trouvé que c'était très pertinent. J'avoue que j'ai plus des images, je me souviens de choses. Bon, évidemment, il y a eu pas mal de choses faites dans le passage par Emmerich, dans Beau Passage, je pense, voilà, était marquant parce qu'un vrai engagement. Et donc je pense moteur sur pas mal de choses, donc je pense que c'était une belle locomotive. Non, voilà, en tout cas, j'ai, J'ai pas mal de souvenirs d'images, en fait, finalement, qui reviennent. Et ensuite, quand on revoit les artistes, on se dit, ah, mais ça me dit quelque chose. Et on se souvient, souvent, qu'on fait tel ou tel projet. Donc, voilà. Et je trouve ça bien aussi que, finalement, ces œuvres rentrent dans notre imaginaire, même si on ne sait pas toujours exactement qui, où. Et puis après, aujourd'hui, en plus, parfois, il y a des projets qui datent d'avant la charte et qu'on attribue à la charte aujourd'hui. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui petit à petit, vont marquer les esprits des uns et des autres, voilà, quand on les voit. Et ça, c'est le plus important.
Ils vont devenir des repères dans la ville.
Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on cherche, enfin, ce que cherchent les promoteurs, finalement, qui se prennent au jeu, hein, c'est que finalement l'œuvre, à un moment donné, devienne un petit peu voilà, l'emblème de l'immeuble ou du lieu ou du jardin, etc. Et qu'on se dise, ah oui, mais tu sais là où il y a. Et voilà, c'est ça qui fonctionne.
Merci beaucoup Marion pour cet échange.
Merci Marion.
À très bientôt.
À bientôt.
Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentart.